Ku Klux Klan est le plus ancien groupe terroriste des États-Unis.
For 5,000 years, the white man has been the supreme race. We, the Knights of the Ku Klux Klan, intend to keep it.
Cette société secrète, qui prône la suprématie blanche et prêche la haine des Noirs, a traversé les décennies et a toujours su renaître de ses cendres. Ces crimes ont ensanglanté l'Amérique depuis plus de 150 ans. 150 ans de haine, de racisme et d'horreur.
KKK, trois lettres pour dire une organisation secrète aussi vieille que l'histoire des États-Unis ou presque, le Ku Klux Klan. Histoire qu'a entrepris de raconter sous la forme d'une enquête historique en deux volets diffusée sur Arte, notre invité David Cornebrosa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes documentariste, on vous doit des films avant celui-ci sur les services secrets français, sur la délation, sur l'occupation, sur l'argent de la résistance, sur la police de Vichy, sur les jeunesses hitlériennes. Vous vous êtes donc attaqué au Ku Klux Klan, on l'entend d'ailleurs dans ce début, dans ce générique du premier volet, puisque c'est en deux volets, où vous parlez du plus ancien groupe terroriste des États-Unis.
Oui. On met un certain folklore sur le Ku Klux Klan, mais c'est une organisation terroriste qui est née il y a 150 ans, comme je le faisais jouer à Lucien Jean-Baptiste là dans ce générique que vous avez entendu. 150 ans de haine et de violence, puisque le Klan, vous voyez, moi en tant que Français qui captais ce que c'était un peu que le Klan, pour moi c'était quelque chose. Enfin, je ne savais pas dater sa naissance, et en fait, ça naît en 1865, juste à la fin de la guerre de Sécession. C'est-à-dire que directement les vaincus, le Sud refuse que les Noirs participent à la vie de la cité, refuse cette égalité, refuse cette défaite de la guerre de Sécession, et donc ils vont créer cette organisation pour justement maintenir les Noirs dans leur statut de personnes qui doivent être inférieures dans le Sud, qui ne doivent pas avoir les mêmes droits que les Blancs, et ils vont essayer de tout faire pour qu'ils ne puissent pas voter, qu'ils ne puissent pas s'élever dans la société. Et ils vont aller jusqu'à les lyncher et les tuer. Et ça n'a pas duré seulement le temps de la guerre de Sécession, mais ça a duré 150 ans. Et c'est cette histoire qui est absolument incroyable, parce que le Klan a disparu plusieurs fois au cours de ces 150 ans.
Oui, c'est ça, c'est pas une histoire linéaire. Depuis 1865 jusqu'à aujourd'hui, le Klan est plusieurs fois mort et renaît de ses cendres.
Oui. Alors, à l'époque... Washington lutte contre le Klan un petit peu, et au bout de quelques années, il disparaît. Mais 50 ans plus tard, en 1915, sort un film sur les écrans qui s'appelle Birth of a Nation.
Naissance d'une nation en français, oui.
De David Griffiths. Donc c'est un grand film de l'histoire du cinéma, un vrai marqueur de l'histoire du cinéma. Mais dans ce film, David Griffiths montre un Klan qui est un peu le justicier de cette Amérique fin de la guerre de Sécession. Et c'est pratiquement une publicité de 3 heures à la faveur du Klan. Et donc, le Klan renaît. Et dans les années 20, il y a une immigration massive aux États-Unis, une immigration qui vient d'Europe, une immigration de juifs, de catholiques. Et bien, le Klan renaît de ses cendres. Et dans les années 20, vous avez aux États-Unis plus de 4 millions de membres du Ku Klux Klan.
Le Klan a 50 millions d'Américains ont vu le film aussi, et effectivement 4 millions d'adhérents dans les années 20. Vous en faites le plus grand mouvement social des années 20, avec kermesse, pique-nique, film, presse, adhésion de président. Harry Truman en a été membre, et vous dites bien dans le film, David Cornebrosa, qu'à l'époque c'était convenable, c'était fréquentable, ce qui a fait que 4 millions d'adhérents, à condition d'être blanc, né aux États-Unis et protestant, il faut quand même le dire, ce qui fait qu'un certain nombre d'Américains ont pu adhérer au mouvement. Eddie Harris.
Et pas seulement dans le Sud, il faut signaler aussi.
Il est né dans le Tennessee, mais ensuite effectivement pris.
Dans les années 20, ça se répand partout aux États-Unis. Mais surtout, là, vous parlez de la fabrique médiatique. Le Klan avait compris ce que c'était que la fabrique médiatique, puisque dans les années 20, le Klan a des émissions de radio. Il y a des musiciens qui font des chansons à la gloire du Klan. Il y a des films, ils font des pièces de théâtre, ils ont leur presse. Dans les années 20, dans tous les États-Unis, il est pas du tout rare de voir des journaux du clan qui se vendent au coin de la rue. Et effectivement, c'est respectable. C'est un réseau, si vous voulez, où on peut faire un peu de networking. On peut connaître des gens pour leur vendre des choses, devenir des clients, devenir des acheteurs, etc., etc.
Vous dites aussi, David Kornbrosa, que dans les années 20, le mouvement s'en est pris, s'en prenait au noir depuis le début, mais s'en est pris aussi aux communistes, aux juifs, aux catholiques, et il a étendu sa haine et ses horreurs encore un peu plus.
Tout à fait. Bien, dans les années 20, comme je le rappelais, l'immigration aux États-Unis est forte. Viennent d'Europe pas mal, beaucoup d'immigrés du sud de l'Europe. En général, c'était des catholiques et aussi beaucoup de juifs de l'est de l'Europe. Et donc le clan, n'accepte pas cette différence. Donc, en plus des Noirs dont il refuse l'égalité et la coexistence, il va aussi s'en prendre aux Juifs, aux catholiques. Qu'ils jugent qui pour eux sont des papistes aux ordres du pape, qui seraient prêts à assassiner le président si le pape leur demandait. Vous voyez, donc une sorte de paranoïa qui se saisit de ces gens-là. Et donc il y a des lynchages, il y a des meurtres, il y a des intimidations sur à peu près toutes les minorités qui s'installent aux États-Unis, hormis le WASP, c'est-à-dire le blanc protestant né sur le sol américain.
Fin de l'âge d'or d'un deuxième, en tous les cas, dans les années 30, deuxième résurrection, en tous les cas, après-guerre, dans les années 50 et 60, où vous montrez là, dans le film, les liens entre la police et le Ku Klux Klan.
Oui, c'est ça qui est terrible, c'est que dans les années 60, bien sûr, c'est l'année 50 et 60, c'est la fameuse lutte pour les droits civiques que mène notamment Martin Luther King. On se souvient tous de ces marches immenses pour que les Noirs aient l'égalité et puissent voter. Et on se rend compte que, dans plusieurs comtés, le shérif est du clan, les jurys sont du clan, tout l'État, enfin surtout dans le Sud, bien sûr. Là, je parle du Sud des États-Unis, quand on parle des années 50 et 60, puisque la ségrégation y est encore. Hein, donc, c'est-à-dire que les Noirs n'ont pas le droit d'aller dans les mêmes cinémas, dans les mêmes universités, dans les mêmes endroits que les Blancs, dans les mêmes cafés et restaurants. Et donc il y a des crimes effectivement, et lorsque les Blancs se font juger, lorsque les membres du Ku Klux Klan se retrouvent devant la justice, la plupart du temps, il ne se passe rien, ils sont totalement acquittés, ils ne sont pas du tout inquiétés, parce que, comme je le disais, les jurys sont du clan, et toute la société civile est du clan.
Il faut attendre les années 80, et ça vous le montrait bien dans le deuxième volet de votre documentaire, David Kornbrosa, il faut attendre les années 80 pour qu'une femme noire, une mère d'un jeune homme de 19 ans qui a été assassiné, obtienne justice. Mais il y a à nouveau un déclin dans ces années 80 à 90, et finalement, ce sont les années Obama qui ont réattisé la haine suprémaciste, puisque ce que montre ce film, c'est d'une certaine façon les origines du suprémacisme blanc. Le mouvement ressurgit après Obama. Et on est aujourd'hui avec un mouvement qui est plutôt éclaté. Vous dites le Ku Klux Klan n'est plus tout seul. Il a fait des petits. Les groupes racistes ont essaimé, puisque le Ku Klux Klan en lui-même ne compte que 6000 membres.
Oui, on évalue aujourd'hui à peu près 6000 membres, les membres du clan. Donc 6000 rapportés à la population américaine, c'est pas grand-chose, mais le suprémacisme blanc actuellement vit une panique aux États-Unis. C'est une panique démographique, puisque tous les spécialistes prévoient que dans quelques années, les blancs deviennent une minorité aux États-Unis, la plus importante minorité, mais reste une minorité aux États-Unis, c'est-à-dire moins de 50% de la population. Et donc ça, c'est une peur panique pour les membres du clan. Et pour tous les groupes suprémacistes. Et donc actuellement, depuis quelques années, on assiste à une sorte de fusion entre ces groupes suprémacistes, fusion et éclatement, puisqu'ils se réunissent entre eux, c'est-à-dire vous avez souvent aujourd'hui des manifestations avec des drapeaux néo-nazis et des drapeaux du clan, des néo-confédérés, des nostalgiques de la ségrégation, qui se réunissent et qui manifestent aujourd'hui, et qui parfois manifestent violemment, comme on l'a vu à Charlottesville.
En 2017.
Où vous vous souvenez, une voiture a foncé dans la foule d'une manifestation antifasciste.
Eddie Harris, vous Eddie Harris, vous avez vu ces deux volets, cette histoire depuis ses origines, vous la connaissiez?
Oui, bien sûr. Mais première chose que j'ai envie de dire, c'est que dans le voyage dans le sud dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai rencontré Maurice Dees, qui était l'avocat qui a porté plainte contre le clan qui a en fait ruiné financièrement le clan qui a tué le fils de cette mère. Et la deuxième chose, c'est que à la base du clan, avant la naissance du clan, une fois que le décret des esclaves fugitives a été passé, la base du clan est déjà là parce que ça autorise les gens de chercher les Noirs pour limiter le mouvement des Noirs, déjà même avant la guerre civile. Ça a continué jusqu'à maintenant. Donc on voit dans l'existence du clan, la naissance du clan, le pré-clan et le après-clan, une sorte de recherche pour le cœur du pays, le cœur des États-Unis. Et je pense que le cœur des États-Unis reste avec les Noirs. Le moment où on trouve une solution sous-entend un problème. C'est pas un problème des Noirs aux États-Unis, mais le moment où on trouve la façon de vivre ensemble grâce aux Noirs, l'existence des Noirs dans le pays, je pense qu'on va avoir finalement le pays qu'on cherche.
David Cornbrosa, un mot peut-être quand même pour terminer sur la façon dont vous avez mené cette enquête historique. D'abord, c'est une histoire très bien documentée, l'histoire du Ku Klux Klan, vous l'avez rappelé, entre les films, la presse, la propagande, les dessins, on en voit beaucoup d'ailleurs des dessins, c'est pas toujours des photos, il y a des images insoutenables. Est-ce qu'il y en a certaines que vous vous êtes refusé à montrer?
Non, je ne pense pas m'être refusé de montrer des choses. Enfin, je pense qu'on a chacun sa sensibilité par rapport aux images. Il y a des images, on n'a pas forcément d'avoir un très très gros plan sur quelque chose d'horrible pour montrer des choses affreuses. Donc non, je ne me suis pas limité, j'ai montré des choses que je pensais pouvoir montrer naturellement. Voilà, mais c'est vrai, vous le rappeliez, il y a énormément de documents. Alors, on commence avec des gravures dans les années, évidemment, 1860, mais tout au long de l'histoire du clan, l'histoire est jalonnée de toute leur histoire. Dans les années 20, il y a même Walt Disney qui fait un de ses premiers films. Il y a le Ku Klux Klan qu'il fait jouer à des enfants, parce que c'est très populaire, on le rappelait. Dans les années 60, c'est bien sûr la lutte pour les droits civiques. Dans les années 80, il y a encore des crimes affreux. Dans les années 90, il y a des attentats.
Ça ne s'est jamais arrêté, même si le clan a eu des périodes plus ou moins fastes.
Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, pour mener cette enquête, moi, j'ai bien sûr retrouvé plusieurs témoins.
Un seul ancien membre qui est un repenti du clan vous parle. Il est représentatif des membres du Ku Klux Klan actuel?
Ah oui, vous savez, il avait fait, lui, tout jeune, il regardait la télé, il a vu le 11 septembre, les attentats du 11 septembre. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il lui arrive que 10 ans plus tard, il s'engage dans l'armée et il fait la campagne d'Afghanistan, il revient, il est il devient un raciste terrible, anti-musulman, anti-islam, etc. Et donc il rentre dans le clan pour se créer une nouvelle famille, si vous voulez, qui a les mêmes idées que lui. Et il commence à haïr à peu près tout ce qui n'est pas comme lui. Jusqu'au jour où, après avoir beaucoup usé de drogue, enfin tous les effets pervers d'être dans un groupe raciste suprémaciste, eh bien, il va avoir des problèmes de santé. Et un ami à lui, ex du clan, qui était sorti du clan, lui a présenté un médecin. Et ce médecin était un réfugié syrien musulman. Et les deux hommes vont devenir amis. Et il va en sortir, il va sortir du clan. J'ai pas pu raconter cette histoire dans le film, c'est une belle histoire.
C'est une belle histoire, et c'est une histoire qui plaît en particulier à notre invité Eddie Harris, je pense, parce que ça rejoint ce qu'il nous disait tout à l'heure. Merci beaucoup David Cornbrosa, et merci pour ces deux volets, donc 2 fois 55 minutes à voir sur arte.tv jusqu'au 11 décembre. C'est aussi en coffret DVD Arte Édition, avec une interview d'un ancien policier afro-américain qui a infiltré les rangs du Ku Klux Klan et dont le livre a inspiré le film de Spike Lee. Le film Le Vôtre sur le Ku Klux Klan d'Amine Cordebrosa a donc eu sa voix française par Lucien Jean-Baptiste, réalisateur de Il a déjà tes yeux et acteur dans Tout simplement Noir, pour le situer. Merci beaucoup encore à vous et merci Eddy Harris, une dernière fois, d'être venu dans ces matins du samedi. On se retrouve après le journal.